Donc, on va prier et avant de prier et aller dans la parole de Dieu, on va faire notre déclaration qu'on aime faire ici à la vie comblée parce que nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. On croit que c'est sa parole et c'est sa parole qui va nous changer. La Bible, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Donc, on va prendre cette occasion maintenant de préparer notre cœur pour la bonne semence de la parole de Dieu. Donc, tout le monde, si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez prendre ça entre vos mains. Sinon, il y a une feuille à l'intérieur de votre bulletin avec les versets de la parole que nous allons voir. Et on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller avec moi à Tite, chapitre 2. Et on va lire plusieurs versets de la parole ce matin qui vont nous aider à comprendre un événement important qui va bientôt avoir lieu ici sur la terre, ou on peut dire dans les airs. Et c'est un événement dont on a entendu parler depuis des années et des siècles. Mais c'est un événement qui est sûr et certain qui va se produire bientôt. Et c'est pourquoi j'ai hâte de partager ce message. J'ai vraiment hâte de voir ce que la Bible dit pour donner un peu plus de clarté concernant ce sujet si important. En fait, le titre de notre message, c'est notre bienheureuse espérance. Notre bienheureuse espérance. Savez-vous que nous avons raison d'avoir de l'espoir aujourd'hui? Même si les choses vont mal autour de nous, même si le monde est en guerre, même s'il y a des crises économiques, même s'il y a cette fameuse maladie qui se promène, qui est venue de l'Asie, même s'il y a toutes sortes de choses dont le monde est effrayé et le monde est vraiment dans la crainte et la peur, nous n'avons rien à craindre, nous avons raison de se réjouir et nous avons raison d'avoir de l'espoir aujourd'hui. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Donc, on va lire en Tite, chapitre 2, verset 11, ce que la parole de Dieu dit. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » En attendant la bienheureuse espérance, on dit la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Ce verset est tellement riche, on pourrait prendre 2 heures juste là-dessus. Êtes-vous content de savoir que je ne vais pas prendre 2 heures ce matin là-dessus? Mais quand même, je pense qu'on a besoin de réfléchir à ce qu'on vient de lire. Ici, la parole de Dieu dit que la grâce de Dieu est apparue. C'est la grâce qui pourvoit le salut pour tous les hommes. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tous viennent à la repentance. Amen. C'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes, le monde entier soit sauvé. Mais on voit ici que nous sommes supposés de vivre dans le siècle présent avec sagesse, dans la justice et dans la piété. Ça va de pair avec ce qu'on a dit ce matin, n'est-ce pas? Dieu veut un peuple saint, sanctifié et mis à part. Et on voit que nous avons une bienheureuse espérance. C'est quoi notre espérance? C'est la manifestation de Jésus-Christ. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on a vu en verset 14 que Dieu s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Savez-vous que votre vie n'est plus à vous-même? Regardez-moi comme faux, hein? La Bible dit que Dieu vous a racheté. Il vous a acheté à un grand prix. Si je vais chez Canadian Tire aujourd'hui et j'achète quelque chose, une lampe à poche, à qui appartient la lampe à poche? À moi, n'est-ce pas? Ça n'appartient plus à Canadian Tire, ça appartient à moi. Et c'est la même chose. Autrefois, nous étions tous sous l'empire du diable. Nous appartenions au diable, dans le fond. Mais Jésus est venu et Jésus nous a rachetés. Qu'est-ce qu'il a payé pour nous? Il a payé avec son propre sang. Et la Bible dit que maintenant, il a acheté un peuple qui appartient à lui. Amen? Et on a besoin de vivre comme cela, comme si nos vies ne sont plus à nous-mêmes, mais à lui. Un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on vive avec la conscience que ma vie n'est pas à moi-même. Je suis maintenant supposé d'avoir une vie purifiée, pure, nette, saint comme lui, il est saint. Amen. Et je suis supposé de vivre d'une façon zélée pour les bonnes œuvres. Pas zélé juste pour faire mes choses, ma petite vie égoïste. Pas zélé juste pour amasser des trésors sur la terre. Pas zélé juste pour avoir du fun et du plaisir dans le monde. Est-ce que Dieu est contre la joie, le bonheur sur la terre? Non. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on sache que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Il y a des choses que Dieu a planifiées avant la fondation du monde que je suis supposé de faire. Amen? Et si je ne fais pas ces œuvres, personne d'autre peut prendre ma place. Il y a des choses que vous êtes supposé de faire. Amen? Est-ce que vous êtes là? Il y a des choses que vous êtes supposé de faire et si vous ne faites pas votre part, personne d'autre peut prendre votre place. Bonne nouvelle, hein? Alléluia! Un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Voici en effet ce que nous vous déclarons. On va aller à 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Alléluia! Et je sais que la réalisation que Jésus revient bientôt, le fait qu'un jour, je vais voir Jésus face à face, ça devrait changer ma façon de vivre. Le fait qu'un jour, je vais être face à face avec celui qui a versé son sang pour moi, celui qui a été crucifié pour moi. Un jour, je vais le voir face à face. Un jour, je vais être face à face avec Jésus. Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur quand vous entendez ces paroles? C'est comme moi. Je ne pense pas qu'on a la révélation de ce que je viens de dire. Un jour, nous allons être face à face avec Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le roi de l'univers. Et c'est fort, n'est-ce pas? Et ça devrait nous donner le goût d'être vraiment sanctifiés, purifiés et zélés. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, en signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, tout le monde dit enlevés, avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc ici, nous voyons vraiment une bonne explication de l'enlèvement de l'Église et du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je veux que vous compreniez? On a déjà parlé des 6 dispensations de Dieu. On a dit que nous sommes rendus à vendredi. Et c'est vendredi soir, c'est tard. Amen. Samedi s'en vient. Nous sommes actuellement dans l'âge de la grâce, l'âge de l'Église. C'est aujourd'hui le jour de salut. Bientôt, samedi va venir. Ça, c'est vraiment le temps du millénaire de Jésus-Christ. Mais avant cela même, avant que le millénaire commence, on va avoir 7 ans de tribulation ici sur la terre. On a déjà eu beaucoup de tribulations sur la terre, mais voici ce que la Bible appelle la grande tribulation comme le monde n'a jamais vu auparavant. Vous pensez que la Deuxième Guerre mondiale était quelque chose? Oui, c'était quelque chose. Vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé en Irak dernièrement et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose? Oui, c'est quelque chose. Mais c'est rien en comparaison avec la tribulation qui s'en vient sur la terre. 7 ans de tribulation. En fait, c'est appelé le 70e semaine de Daniel. OK? Dieu a donné au prophète de Dieu, il a dit qu'il y aura 69 semaines Et ensuite, il y aura une période qu'on appelle vraiment l'âge de la grâce, l'âge de l'Église. Et après cette période de l'Église, la 70e semaine de Daniel, on n'a pas le temps de parler trop de cela, va commencer. C'est là où on va dans ce sens et ça s'en vient vite. C'est vendredi. Tout le monde dit c'est vendredi soir. Alléluia. Donc, la tribulation s'en vient. Et à la fin de la tribulation, la Bible est claire que Jésus-Christ va apparaître assis sur un cheval blanc. Et on va voir, sur lui, il va être écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et il va venir vraiment dans le but de juger les nations de la terre. Et une épée va sortir de sa bouche. Et lui va venir et toutes les armées du ciel vont venir avec lui. Et Jésus-Christ va exercer un jugement sur la terre et ensuite il va établir son trône sur la terre à Jérusalem et Jésus va avoir pendant 1000 ans de temps, il va régner sur la terre et nous, l'Église, nous allons régner avec lui. Donc, il y a deux choses dans la Bible. La Bible parle du retour du deuxième avènement de Jésus. Là, il va s'asseoir sur le trône de David sur la terre. Ça, c'est une chose. Mais la Bible nous montre qu'il y a une autre chose qui va précéder le deuxième avènement de Jésus comme roi, là où il va s'asseoir sur le trône de David sur la terre pendant 1000 ans. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est de voir dans la parole de Dieu, c'est que, selon la parole de Dieu, avant les 7 ans de tribulation, il y aura un autre événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église qui va avoir lieu. Et ça, c'est notre bienheureuse espérance. Amen. C'est-à-dire que même si on sait que la colère de Dieu, le jugement de Dieu, une grande tribulation vienne sur la terre, nous avons une bienheureuse espérance. Et ça, c'est l'apparition de Jésus. Et ça, c'est notre rencontre avec lui dans les airs. Amen. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et en fait, je vais vous donner juste 1, 2, 3, 4, 5 choses concernant l'enlèvement de l'Église. Juste pour bâtir un fondement ce matin. Et ensuite, on va voir pourquoi nous croyons, juste quelques raisons pourquoi nous croyons que l'Église va échapper à la grande tribulation. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit cela. Il y a même des chrétiens qui croient que l'Église va être obligée de passer par la tribulation et de subir les choses de la tribulation. Je ne crois pas que c'est ça que la Bible nous enseigne. Mais nous allons voir, et nous avons déjà vu en 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, il y a 5 choses qu'on peut souligner. Premièrement, on va voir, selon ces versets qu'on a lus, que nous serons enlevés sur les nuées quand Jésus vient pour l'Église, quand la trompette va sonner, okay? Quand la voix de l'archange va crier, on va être enlevés sur des nuages. On ne va pas précéder ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont en Christ, qui sont déjà morts, vont ressusciter d'entre les morts. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ceux qui sont déjà morts en Jésus-Christ, je ne parle pas des pécheurs. Les pécheurs vont rester dans le tombeau jusqu'à la fin du septième jour, dans le fond. Et ensuite, eux autres vont être ressuscités pour se tenir devant le grand trône blanc de jugement, et ensuite ils seront jetés dans les temps de feu. Mais ceux qui sont chrétiens, qui sont croyants, leur corps vont être ressuscités dès que Jésus vient, dès que la trompette sonne, les gens vont sortir du tombeau, et nous qui sommes vivants à son retour, nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Amen. C'est important pour vous de le savoir. Pourquoi? Parce que même Jésus a dit quelque chose. Matthieu chapitre 24 et verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, on voit que c'est comme dans un instant, instantanément, deux personnes vont être là et une personne va disparaître. Voulez-vous être la personne qui va disparaître ou voulez-vous être la personne qui est laissée? La personne qui est laissée va être obligée de passer pendant 7 ans la grande tribulation s'il survit. C'est lui qui va être obligé de refuser la marque de la bête et de toutes ces choses qu'on va voir dans une autre semaine. Après Pâques, on va continuer notre série sur la fin des temps. On va parler de ces choses. Mais celui qui est laissé va avoir de la misère. Celui qui est enlevé va avoir de la joie. Amen. J'aimerais bien mieux être enlevé que laissé. Et vous? Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous voyons? C'est que nous serons enlevés sur les nuées. Et deuxièmement, nous serons changés dans un clin d'œil. Changés dans un clin d'œil. C'est-à-dire que dès que la trompette sonne, dès que la voix de l'archange est entendue, il y a quelque chose, la puissance de Dieu va être déclenchée et mon corps physique, ce qui est mortel, va être englouti par ce qui est immortel. Amen. Il y aura un déclenchement du pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, et tout de suite, mon corps va se changer. Je serai capable de voler même. Amen. Merveilleux, n'est-ce pas? Wouh! C'est bon, hein? C'est bon. Fini les journées de fatigue. Fini les journées de « Oh, je ne file pas bien aujourd'hui ». Fini, fini, fini. Amen. Alléluia. Des fois, on se regarde dans le miroir, on dit « Hey, on ne devient pas moins jeune ». Amen. La Bible est claire que notre âme extérieure est en train de se détruire à chaque jour. Mais l'homme intérieur se renouvelle à chaque jour aussi. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? Dès que Jésus vienne, nous serons changés dans un clin d'œil. Regardons. Il y a trois versets qui parlent de cela. 1 Jean 3:2 dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » N'est-ce pas bon? On sera changé et transformé dans un clin d'œil et on va être semblable à Jésus. Notre corps va être semblable à son corps de résurrection. N'est-ce pas merveilleux? Combien de vous avez hâte de cette journée-là? Wow! Il y a des journées où j'ai plus hâte que les autres aussi, hein? Est-ce que je suis le seul comme ça? 1 Corinthiens 15, verset 51 dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » C'est drôle, hein, parce qu'en anglais, ce verset dit, nous ne dormirons pas tous, parce que des fois, la Bible parle de dormir au lieu de mourir. Et c'est marqué, nous n'allons pas tous dormir, mais nous serons tous changés. Donc, il y a bien des places dans les églises où ils ont marqué ce verset sur la porte de la pouponnière. Nous n'allons pas tous dormir, mais nous serons tous changés. Est-ce que vous l'avez attrapé? Ils vont pas tous dormir, mais les couches vont tous être changées, hein? Philippiens, chapitre 3, verset 20 dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Notre cité à nous est dans les cieux. Je suis Drummondillois, mais pas vraiment. Je suis citoyen du ciel, et vous? Peu importe, hein, votre ville ou votre ville de natalelle ou de naissance, peu importe où vous êtes venu au monde, notre cité à nous est dans les cieux. Mais regarde bien ce verset. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Comment est-ce qu'il va le faire? Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais ces choses sont édifiantes pour moi. De voir qu'un jour, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu va être déclenchée et dans un clin d'œil, quoum! Je ne suis plus mortel, je suis immortel pour éternité. Mon cœur est en bonne forme. Amen. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Notre chose que nous voyons, troisième chose, c'est que nous allons le rencontrer dans les airs. Et c'est important parce que Jésus a dit à Matthieu 24, 26, « Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, ça se peut que dans les journées à venir, il y a des faux prophètes qui vont dire, « Hey, Jésus est déjà venu, il est à telle place, il est déjà à Jérusalem, il est déjà dans le désert, il est à telle place. » Non, 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 la Bible dit, « Croyez pas à ça, Jésus va venir comme une éclair du ciel. » Alléluia. et on va le rencontrer dans les airs. Donc ne soyez pas trompés par quelqu'un, par quelques faux prophètes en disant, mais Jésus est là, si tu ne veux pas manquer le bateau, venez à telle place. Non, croyez pas à cela, mais attendez du ciel votre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons le rencontrer dans les airs. Et on va voir dans une autre semaine qu'on va avoir aussi un temps où les croyants vont passer devant le tribunal de Jésus-Christ pour recevoir les récompenses pour leurs bonnes œuvres. Mais on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui. Mais numéro 4 ici, c'est avec lui, nous allons toujours rester. Une fois qu'on est avec Jésus, on est dans sa présence, nous allons toujours rester dans sa présence. N'est-ce pas encourageant? Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir pour aller au ciel. Et je pensais à ça un jour. Combien de jours est-ce que ça a pris pour Dieu de créer la terre et les cieux? 7 jours. Mais ça fait combien de temps que Jésus est parti pour nous préparer une place? 2000 ans. Quelque chose, hein? C'est ça, 6 jours que ça a pris pour Jésus de créer toute la terre. Et est-ce que vous êtes d'accord que c'est une belle planète? Les montagnes, les océans, la mer, c'est une belle place ici sur la terre. Vous êtes d'accord? Mais imaginez la place qui est préparée pour nous. Que ça a pris 2000 ans pour préparer. Wouh! Maranatha! Seigneur, viens nous chercher! Alléluia! Mais avant qu'il vienne, il faut qu'on aille chercher les âmes. Amen! Oh, ça va être beau! Ça va être merveilleux! Alléluia! Avec lui, nous allons toujours rester. Finalement, cette espérance devrait nous consoler. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc le message de l'avènement de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, c'est toujours un message positif. On ne devrait jamais avoir peur ou crainte d'entendre parler de l'enlèvement, à moins que on ne connaît pas Jésus ou à moins qu'on ne marche pas vraiment droit avec lui. Parce que la Bible n'est pas claire. La Bible est claire sur une chose, c'est que ceux qui vivent pour le Seigneur et qui attendent son avènement et qui veillent pour lui vont être enlevés. Mais ceux qui sont en train de marcher un pied dans le monde, un pied dans l'Église, il y a des versets de la Bible que je ne serais pas dogmatique là-dessus, mais ça met les doutes. Que si vous êtes vraiment rebelle, révolté, vous ne marchez pas avec le Seigneur Jésus, je ne sais pas si on a une garantie d'être enlevé avec ceux qui marchent vraiment avec Dieu. Amen? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a cette espérance, se purifie lui-même comme il est pur. Amen? Et on a besoin d'attendre son avènement, veiller, regarder, avoir hâte de son retour, mais vivre dans la sainteté aussi. Je ne veux pas dire que vous devrez avoir peur ou crainte. Si votre cœur est droit avec Dieu, même si vous êtes faible dans quelques domaines, Dieu ne va pas vous oublier. Amen? Mais s'il y a une différence entre quelqu'un qui est révolté et quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui est faible veut faire le bien, mais il tombe encore et encore. Et il a besoin de se fortifier dans la parole pour pouvoir marcher droit. Mais quelqu'un qui, par un acte de sa volonté, refuse de se soumettre à Dieu et il est révolté, ça c'est une autre histoire. Celui qui pêche volontairement. Amen? Amen. Donc, voilà qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'enlèvement. Et plusieurs choses. Il y a beaucoup d'autres versets qu'on aurait pu voir. Mais on va aller au deuxième page de nos notes et on va voir la réponse à la question, est-ce que l'Église va échapper à la grande tribulation? Est-ce que l'Église va échapper à la grande tribulation? Moi, je crois que oui. Il y a des personnes qui disent que l'Église va passer par la tribulation, Jésus va revenir, on va le rencontrer dans l'air et puis on va venir tout de suite sur la terre pour régner avec lui. Mais je crois que ce n'est pas possible que ce soit le cas. Et je vais vous montrer 3 raisons pour lesquelles je le crois. Il y a beaucoup plus. Hein, j'ai déjà mentionné la 70e semaine de Daniel, par exemple. On voit que vraiment, ça ne va pas de pair avec les gens qui croient qu'on va passer par la tribulation. Mais première raison qu'on va voir, et ça va vous aider, ça va vous encourager, c'est que l'Église doit être enlevée excuse la faute de frappe là, l'Église doit être enlevée avant l'apparition de l'Antichrist. Vous savez que l'homme du péché, l'homme de perdition, l'Antichrist, on va parler de lui, on va étudier ce sujet un peu plus dans quelques semaines. Mais l'Antichrist, celui qui va imposer la marque de la bête et tout le kit, lui, l'homme de la perdition, ne peut pas apparaître sur la terre et prendre position sur la terre avant que l'Église soit enlevée. Comment est-ce qu'on le sait? On va regarder. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que ça vous intéresse? Alléluia! 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, et moi, je crois que c'est deux choses différentes. L'avènement de Christ, c'est quand il va venir pour régner sur la terre, mais notre réunion avec lui, ça va être dans les airs, lors de l'enlèvement de l'Église. En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Et les Thessaloniciens, ils avaient une rumeur qui se promenait en disant que le jour du Seigneur était déjà venu et les gens avaient peur. « Ah, on a manqué la coche! » Mais regarde bien, il dit, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, souligne ce mot apostasie, soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'un son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, souligne cette phrase, celui qui le retient, que celui qui le retient encore ait disparu, encerclé le mot disparu. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que la Bible dit? N'ayez pas peur que le jour du Seigneur est déjà venu, parce que c'est impossible. Avant que Jésus vienne, le Fils de la perdition, l'Antichrist, doit apparaître. Est-ce que vous voyez, il y a un ordre d'événements. Et il faut que l'Antichrist arrive sur la scène avant que Jésus puisse venir pour exercer jugement et pour régner sur le trône de David. Vous me suivez? Il faut que l'Antichrist vienne. Mais avant que l'Antichrist puisse venir, celui qui le retient doit disparaître. C'est qui retient l'Antichrist aujourd'hui? C'est la présence de l'Église de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il faut que l'apostasie vienne. Il y a quelques-uns qui croient que l'apostasie veut dire que tous les croyants vont s'éloigner du Seigneur et que l'Église va devenir de plus en plus faible. Et que, finalement, l'Antéchrist va pouvoir prendre son pouvoir. Non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que Jésus vient pour une Église glorieuse, triomphante, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Et ce mot apostasie, littéralement en grec, veut dire de quitter, ou c'est vraiment un départ. Donc, est-ce que si on lit ce verset comme ça, avant que l'impie, avant que l'Antéchrist puisse venir, il faut avoir le grand départ. Amen. Le grand départ doit arriver. Et ça va de pair avec le restant du texte. Parce que le texte dit que celui qui le retient doit disparaître. Amen. C'est qui retient l'Antéchrist? C'est nous. Et dès que notre mission est accomplie, dès que le nombre d'âmes est suffisant, dès que le fruit précieux de la terre est récolté, la trompette va sonner, l'archange va crier, et nous allons être transformés, nous serons disparus.
Alléluia.
Et ensuite, l'Antéchrist va avoir libre cours pour prendre sa place. Pourquoi est-ce qu'on croit que l'Église va être enlevée et échapper à la grande tribulation? Parce que l'Antéchrist ne peut pas venir aussi longtemps que nous sommes ici, marchant dans notre autorité. Amen. C'est nous qui retenons. Deuxième raison pour laquelle je crois que l'Église va échapper à la grande tribulation, c'est parce que l'Église n'est pas destinée à subir la colère de Dieu. L'Église n'est pas destinée à subir la colère de Dieu. Ce n'est pas mon opinion, c'est ce que les Écritures disent. 1 Thessaloniciens 5, 9 dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde dit, je ne suis pas destiné à la colère. Alléluia. Regardons verset 9 de 1 Thessaloniciens 1. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je ne suis pas destiné à subir la colère de Dieu. Regardons bien Apocalypse. Mais avant ça, Colossiens 3, 6 dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Est-ce que Dieu est capable de répandre sa colère sur les hommes? Oui. Sur qui est-ce qu'il va répandre sa colère? Nahum dit que Dieu a réservé sa colère pour ses ennemis. Ici, nous voyons que Dieu va répandre sa colère sur les fils de la rébellion. Est-ce que vous marchez comme fils de lumière ou fils de la rébellion? Bonne question. Si vous êtes enfant de Dieu et vous marchez dans la lumière comme il est dans la lumière, vous n'avez rien à craindre parce que la colère de Dieu est réservée pour ses ennemis et nous sommes sa famille. Amen? Il y a une différence entre la correction du Seigneur, même le châtiment du Seigneur, et la colère du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Il y a une grande différence. Et la colère de Dieu est réservée pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et je suis enfant de Dieu, la colère ne va pas venir sur moi. Apocalypse 6, 14 nous montre clairement que la grande tribulation, c'est vraiment la colère de Dieu répandue sur la terre. On a beaucoup de versets, je vous donne juste quelques-uns ici. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Wouh! À tes souhaits. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Mes amis, la colère de Dieu, ce n'est pas une farce. Dieu est un Dieu d'amour et de compassion et c'est pourquoi il est patient, ne voulant qu'aucun périsse. Il a donné un jour, le jour de salut, l'âge de la grâce, l'âge de l'Église. Mais jouons pas avec la grâce de Dieu. Sachons qu'un jour, la porte va fermer, le jour de la grâce va être terminé, et la tribulation va commencer, et la grande journée de sa colère va commencer. Mais nous ne serons pas ici pour subir sa colère. Amen? Nous ne sommes pas destinés à subir la colère de Dieu. Troisième raison pour laquelle on croit que Dieu va nous aider à échapper à la grande tribulation. Est-ce qu'on va avoir les tribulations? Oui. Est-ce qu'on va avoir la persécution? Oui. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On va avoir les temps difficiles, les tribulations et les défis. Mais ça, c'est une chose. Mais la colère de Dieu, c'est une autre chose. Amen? Nous aurons besoin de faire face à l'ennemi, à Satan et aux gens qui vont nous persécuter. Mais nous n'aurons jamais besoin de faire face à la colère de Dieu. Jamais. Jamais. N'est-ce pas bon? Alléluia. Donc, troisièmement, c'est l'expérience de Noé et de Lot qui me donne l'assurance que moi, je n'aurai pas besoin de subir la tribulation. Ça, c'est juste trois exemples que je vais vous donner, que j'ai donnés. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je m'en souviens un jour, j'étais En Oklahoma, je pense, il y a longtemps, et je priais là-dessus. J'avais des questions dans ma tête et le Seigneur m'a montré clairement. Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, on va aller à Luc, Matthieu 24 aussi, mais Luc 17, c'est dans vos notes, c'est marqué. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fut tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Donc on voit ici, Jésus a dit, il y aura une comparaison entre les jours de Noé et Lot et le jour de son retour. Dans le temps de Noé, les gens ignoraient le plan de Dieu. Il s'en fichait du plan de Dieu. Noé a prêché. Il était un prédicateur de justice. Il disait qu'un déluge venait. Mais les gens refusaient d'écouter. Et ils ont continué leurs affaires en disant, « Oh, rien ne va se passer, rien ne va se passer, jusqu'au jour que la porte soit fermée, fut fermée et que la pluie a commencé à tomber. » Jusqu'au jour, ça va être la même chose. Il y a des personnes qui se moquent des chrétiens et qu'un jour, ça va être trop tard. Ils vont dire, oh, « J'aurais dû écouter. » Amen. Quand Lot était à Sodome, et quand Dieu a voulu juger Sodome et Gomorre, jusqu'au jour même, les gens ne croyaient pas quand le jugement venait. Ils faisaient leurs affaires, ils s'occupaient de leurs oignons, comme toujours, hein? Et le jugement de Dieu est venu, la colère de Dieu est venue. Mais il y a une autre chose que nous voyons avec cette comparaison. Qu'est-ce que Dieu a fait avec son peuple? Noé et les 8 personnes qui ont été sauvées, avant, de un, il les a avertis. Il les a avertis. Ils n'étaient pas dans les ténèbres. Ils savaient que le déluge s'en venait. Amen. Ils étaient dans la lumière. Ils n'étaient pas dans les ténèbres. Donc, ils se sont préparés. Et la journée même qu'ils sont entrés dans l'arche, Dieu lui-même, avec sa main, a fermé la porte. Et là, la colère de Dieu est tombée sur la terre. Mais ils ont été enlevés, on peut dire, protégés. Ils étaient au-dessus de la terre. Amen. Alléluia, bonne nouvelle. Et quand c'était le temps d'envoyer le feu sur Sodome et Gomorre, Dieu avait quand même un homme juste, même s'il n'était pas l'homme le plus prudent ou religieux, Lot était quand même parenté avec Abraham, et Dieu a voulu sauver Lot et sa famille. Donc, on va juste lire Genèse 19, 15, dit, « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine et de la ville. » Donc, Dieu a averti encore. Amen. « Et comme il tardait, les hommes, ou on peut dire les anges, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. » Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Amen. Donc, est-ce que vous voyez l'image? C'est comme il est arrivé pour avertir Lot et sa famille. Le jugement de Dieu s'en vient. Je veux que tu sois épargné. Et ils ont commencé à tarder. Ils disent, on y va! Amen. Je m'excuse, hein?
Merci, merci, merci.
Mais c'est ça, l'image de l'enlèvement. Le jugement de Dieu s'en vient sur la terre, mais l'ange de Dieu va descendre, amen, la trompette va sonner, et Jésus va dire, on y va! Et nous serons transformés, on va le rencontrer dans les airs, amen, et on va toujours avec lui. Mais vous voyez, avant que Dieu exerce son jugement, il avertit toujours son peuple, et il donne toujours un moyen de s'échapper à son peuple. Le peuple de Dieu ne doit jamais subir la colère de Dieu. N'ayez jamais peur de ça. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. On va jouer le piano, là, on va prier. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être la semaine prochaine ou l'an prochain. Ça peut être dans 10 ans. On ne sait pas. je ne pense pas à 10 ans, mais ça c'est mon opinion. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous marchez avec lui comme quelqu'un qui lui appartient, comme quelqu'un qui est lavé et comme quelqu'un qui est zélé pour les bonnes œuvres? Marchons avec lui. Qu'est-ce qu'on devrait faire face à cette réalité que Jésus vient si bientôt? Moi, je sais qu'est-ce que je vais faire. C'est pas le temps d'avoir un parti en disant, OK, on va tous s'assembler à l'église et attendre avec les yeux dans l'air. Non, c'est le temps d'aller prêcher, d'aller dans les rues. Amen. Si le Seigneur te demande de cogner une porte, cogne la porte. Amen. Si le Seigneur te demande d'ouvrir la bouche, ouvre la bouche. Juste vendredi, j'étais dans mon bureau et j'avais besoin de prendre de l'air. J'ai pris une marche de 15 minutes. J'ai fait le tour ici, j'ai pu témoigner à 3 personnes. Et tous les 3 étaient ouverts. Amen. Dans 15 minutes, 3 personnes. Les gens sont ouverts aujourd'hui. Jésus revient. La colère de Dieu, le jour de sa colère, va bientôt apparaître sur la terre. Nous avons été avertis. Nous sommes dans le bateau avec Jésus. Amen. Mais il y a tant de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, aide-nous à être une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dévoué, zélé pour tes bonnes œuvres, Seigneur. Au nom de Jésus. Avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste donner l'occasion ce matin. Si vous êtes ici et vous dites dans votre cœur, je ne suis pas sûr d'être prêt. Si la trompette sonnerait ce matin ou cet après-midi, ce soir ou demain, je ne suis pas sûr et certain d'être enlevé. Si vous n'êtes pas sûr et certain, on va juste chanter un chant. Je vais vous inviter à donner votre cœur à Jésus ce matin. Alléluia. Et avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sûr et certain que je suis prêt pour son retour. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, « Oui, je veux être prêt. » Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais inviter la personne qui a levé la main de faire quelque chose. Jésus a dit, « Si tu me confesses devant les hommes, je vais te confesser devant mon Père. » Amen. Je vais te demander juste tout simplement de venir ici en avant. On va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, « J'ai pas honte de Jésus? » Moi aussi, je veux le connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Alléluia. On va se lever debout, tout le monde, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de peut-être de redédier votre vie à Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Pour une reconsécration de sa vie au Seigneur, j'ai à cœur de prier tous ensemble. Je vais te demander de prier cette prière avec nous. On va tous, en tant qu'Église, prier cette prière. Parce que je pense qu'on a tous besoin de prier cette prière. Donc, Père Céleste, je m'approche de toi au nom de Jésus. Je te remercie pour la vie éternelle. Par la grâce, j'ai été sauvé. Par les moyens de la foi. Ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est ton don, Seigneur. Je suis ton enfant. Et à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre à 100%. Je me repens de mes péchés. Je veux foncer avec toi. Au nom de Jésus, aide-moi à te suivre par ta force et ta puissance. Au nom de Jésus, je serai prêt à ton retour. J'ai même hâte de ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Juste reste là pour une minute. On va juste chanter un chant et hallelujah.